Bonjour et bienvenue au Portrait professionnel, le balado où on tente de clarifier différentes professions du marché du travail. Bruno Velfringer est consultant en environnement et en santé sécurité au travail. Il nous parle de son parcours, de son quotidien et de l'impact positif que son travail peut avoir sur l'environnement à travers sa collaboration avec le secteur industriel. Bruno Velfringer, bonjour.
Bonjour Amy.
Ça va bien?
Ça va bien toi?
Ça va bien, merci. Alors, on se rencontre aujourd'hui pour discuter de ton beau métier. Veux-tu nous dire ce que tu fais?
Je suis consultant en environnement et en santé sécurité au travail.
OK. Consultant en environnement et en santé sécurité au travail. Quand les gens t'entendent dire ça, qu'est-ce qu'ils imaginent que tu fais de tes journées?
Quand on parle de consultant en environnement, beaucoup de gens aujourd'hui vont penser à tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, réchauffement climatique, etc. C'est effectivement de l'environnement, mais ce n'est pas le domaine de consultant en environnement dans lequel nous, on opère avec ma compagnie, qui va plus toucher au niveau des sites contaminés, des conseils à nos clients par rapport à leurs problématiques environnementales, rejet d'eau usée, émissions atmosphériques, gestion des déchets, etc.
Fait que c'est pas tant je porte une cape puis là je vais sauver la planète, c'est plus un besoin précis d'un client auquel vous tentez de répondre.
Exactement, dans notre cas c'est ça. Il y a des consultants en environnement qui vont être plus du côté des GES, etc. Mais nous dans notre cas c'est pas notre principale activité.
Mm-hmm. OK, fait que j'ai été fouiner un peu sur votre site internet puis là votre principale activité c'est à peu près 75 affaires. Fait que je voulais clarifier un peu avec toi. Si je te voyais au travail, c'est sûr que tu as deux chapeaux, hein? T'es gestionnaire puis en mm-hmm. même temps bon,
exact.
Tu pourrais être sur le terrain. Si j'essayais de voir le type de mandat que vous pourriez faire, donc le type de demande que vos clients pourraient vous faire, ça ressemblerait à quoi?
Ça peut ressembler, par exemple, et comme tu dis, on offre beaucoup de services, puis il y a beaucoup de types de clients. Fait que chaque client est différent, chaque mandat est différent. On peut prendre un exemple d'un client qui nous appelle parce qu'il veut acheter un terrain. Un terrain sur lequel il y a eu des activités industrielles, donc qui est possiblement contaminé. Donc lui va nous demander de faire un diagnostic du terrain, de savoir est-ce qu'il y a des enjeux environnementaux associés à ces activités historiques. Et ensuite, donc on va faire une première étape qui s'appelle une phase 1. Et suite à cette phase 1, on va voir s'il y a des enjeux environnementaux. On va aller vraiment caractériser, par exemple, les sols et l'eau souterraine pour essayer de quantifier les enjeux environnementaux, s'ils existent finalement. Et puis, il peut y avoir des phases subséquentes de clarifier la contamination. Est-ce que c'est vraiment un hotspot qu'on a identifié ou est-ce que c'est plus large? Et enfin, une étape de réhabilitation si jamais le client veut acheter le terrain propre. Donc là, on va aller décontaminer les sols.
OK. Fait que j'évalue, j'explique au client qu'est-ce qui se passe. Puis ensuite, ben, s'il y a besoin de décontamination, je m'en occupe.
C'est ça.
OK. Fait que ça serait, mettons, pour une situation où est-ce qu'on veut s'approprier ce terrain-là. Ça serait quoi les autres demandes qu'on pourrait avoir, par exemple?
Il peut y avoir une demande. Il y a beaucoup d'activités industrielles qui nécessitent des permis ou des certificats d'autorisation du ministère de l'Environnement.
Comme quoi?
Comme émettre des contaminants dans l'atmosphère. On peut les émettre jusqu'à un certain niveau. Pour réaliser une activité industrielle, si elle est susceptible d'émettre des contaminants, ça nous prend une autorisation du ministère de l'Environnement pour la réaliser, pour la mettre en place et la réaliser. Donc, ou si quelqu'un veut augmenter la production de son usine, puis qu'il est susceptible d'en résulter aussi des émissions de contaminants, ça prend aussi une autorisation. Donc ça, c'est tous des types de mandats que des clients peuvent nous arriver. Et puis, on peut avoir des demandes de permis ou d'autorisation à formuler auprès des autorités et gérer ça avec eux après.
OK. Fait que si, mettons, une industrie qui fabrique de la peinture, là, je pourrais vous appeler puis dire, ah, ben là, je veux augmenter ma production, il faut que je prouve que ça va être correct, comment je vais faire ça.
Mm-hmm.
Là, vous m'aidez à rédiger le rapport.
C'est ça. Nous, il y a des formulaires qui sont disponibles sur le site du ministère de l'Environnement. Nous, on va aller télécharger ces formulaires-là, on va les remplir avec toi. On va te poser beaucoup de questions, savoir comment est-ce que tu envisages cette augmentation. Est-ce que tu vas devoir changer des machines? Est-ce que tu as des contrôles qui vont être faits au niveau de tes émissions atmosphériques, au niveau de tes rejets à queue, etc. On va remplir les formulaires et on va les soumettre ensuite au ministère.
Mm-hmm. Fait qu'il y a toujours un peu cette notion de... Tu sais, ça le dit dans ton titre, hein, mais il y a un rôle conseil. Hein, où est-ce
exact.
Que je vais, oui, avoir ce volet très scientifique, où est-ce que je cumule des données, mais et ensuite, ben, ces données-là, je les vulgarise puis je les explique à mon
exact.
Client.
Mm-hmm. Oui, il y a effectivement, il y a un rôle de vulgarisateur qui est très important dans notre domaine parce que c'est des termes techniques, des termes scientifiques qu'on utilise. Puis notre client n'est pas forcément au fait de tous ces termes-là, ou de toutes les lois et règlements qui existent en matière d'environnement. Fait qu'il faut pouvoir lui expliquer avec des mots simples pour qu'il puisse comprendre.
Mm-hmm. Ça pourrait être quoi d'autre comme type de mandat?
Là, on a parlé du côté environnement, donc les évaluations environnementales de sites, les certificats d'autorisation. On a un volet hygiène industrielle aussi, santé, sécurité au travail, qui vise l'évaluation de l'exposition des travailleurs dans une usine, par exemple, à différents contaminants. Ça peut être des contaminants physiques, des contaminants chimiques, des contaminants biologiques, etc. Donc là, de la même manière, il peut y avoir une étape, une première étape d'évaluation qualitative. Est-ce que il y a des contaminants qui sont susceptibles d'atteindre les travailleurs? Puis si oui, on peut ensuite faire une évaluation quantitative où on va vraiment aller échantillonner, par exemple, l'air que les travailleurs respirent pour voir si les contaminants se retrouvent effectivement dans l'air et si oui, à quel taux, pour pouvoir se comparer ensuite aux normes, etc.
Mm-hmm. Fait que j'évalue, je l'explique, puis je propose des solutions.
Exact. Ensuite, on peut proposer des solutions aux clients. Donc, est-ce que ça prend par exemple, pour des travailleurs qui sont exposés à de la poussière, est-ce que ça prend des masques? Quel type de masque? Est-ce que ça peut prendre aussi des équipements de protection collective? Par exemple, une hotte pour faire des opérations sous cette hotte-là pour éviter que les poussières se retrouvent dans la zone où les travailleurs respirent, etc.
Mm-hmm. Fait que là, c'est plus comme le côté santé-sécurité au travail. Est-ce que ça va aller comme dans le... C'est ça, c'est santé-sécurité, mais toujours dans la vision un peu environnement, hein, parce que c'est pas comme, ah, oh, il y a un fil, c'est pas de la CNSST,
non,
là, il y a un fil au sol, je vais trébucher.
Effectivement, c'est pas de la sécurité dans ce sens-là. C'est vraiment, ça va être plus de l'hygiène industrielle qu'on appelle. Et effectivement, il y a un lien qui est assez marqué entre les deux domaines d'environnement et santé-sécurité dans lesquels on travaille, parce que les contaminants qu'on retrouve dans l'environnement à l'extérieur de l'usine, souvent, ça va être les contaminants qu'on retrouve à l'intérieur de l'usine qui vont impacter les travailleurs. Fait que c'est deux domaines qui sont quand même intimement liés.
Dans le sens où c'est ce que l'industrie va rejeter qui va se retrouver aussi à l'intérieur?
Oui, pas forcément, mais c'est que disons qu'il peut y avoir des émissions à l'intérieur de l'usine de poussière. Quand elles sont à l'intérieur de l'usine, elles vont toucher les travailleurs au niveau de leur santé et sécurité, mais elles peuvent aussi être rejetées à l'extérieur de l'usine, puis là, ça va plus toucher l'environnement.
Mais c'est comme les mêmes contaminants.
C'est ça.
OK, je comprends. Là, on est en train de regarder un peu comme les différents mandats. Fait que, encore la même question que tout à l'heure, mais si on y allait précisément dans si je te voyais toi te promener dans ta journée, dépendamment de ces différents mandats-là, je te verrais faire différentes choses.
Oui.
Fait que j'imagine que ça fait comme un quotidien quand même très varié. C'est comment pour toi de te promener entre toutes ces différentes lunettes-là?
C'est super intéressant et à la fois très challengeant aussi parce que oui, on peut commencer une journée en se disant « bon, je vais écrire le rapport sur les travaux de terrain que j'ai fait la semaine dernière, etc. » Puis là, on reçoit un appel d'un nouveau client qui a une demande rapide pour évaluer un terrain ou faire un quelconque mandat. Fait que là, on doit se revirer de bord et puis réorganiser notre journée pour prendre connaissance du dossier que ce nouveau client-là nous propose, voir si on va être capable de le réaliser, lui préparer une offre de service, discuter avec lui de ses besoins, etc. Donc, effectivement, les journées peuvent être très variées et puis peuvent changer du tout au tout en très peu de temps.
Mm-hmm. Puis, c'est quand même des gros mandats. Là, quand on regarde un peu là, votre site Internet, on voit que okay, ben, si je m'en vais regarder un terrain, puis est-ce qu'on a le décontaminé ou pas, nanana, j'imagine que tu n'es pas tout seul à faire tout ça. Tu es entouré de qui au travail?
Au travail, on est une quinzaine de personnes dans notre compagnie. On est entouré principalement par des professionnels donc qui détiennent des baccalauréats ou des maîtrises dans des domaines scientifiques variés, donc des biologistes, géographes, des ingénieurs chimiques, ingénieurs géologues, etc.
Mm-hmm. Fait que tout le monde va apporter un peu son angle sur cette même situation que vous êtes en train d'évaluer.
Oui, exactement. Tout le monde a un background différent, fait que puis il y a des expertises aussi différentes selon des emplois précédents ou quoi. Donc tout le monde peut apporter effectivement son point de vue sur le dossier, puis c'est ça qui est très intéressant. Puis on essaye aussi de prendre des mandats ou de donner des mandats différents à tous les membres de l'équipe pour que chacun puisse après se développer dans les différents domaines et puis être capable de prendre en charge différents mandats.
Mm-hmm. Fait qu'on développe des joueurs qui vont être polyvalents, puis qui vont pouvoir travailler sur différents mandats. OK, cool. Fait que là, c'est sûr que c'est un domaine qui est quand même très niché, hein, ce que vous faites. Fait que je serais curieuse de voir qu'est-ce qui t'a amené jusque-là. Fait que si je reculais là, dans le passé, puis que j'avais vu Bruno comme mini-étudiant, là, jeune, qu'est-ce que j'aurais vu comme genre d'étudiant?
Ben, j'étais quand même assez studieux en tant qu'étudiant. J'ai toujours pris mes devoirs, mes leçons à cœur. Fait que j'étudiais quand même pas mal, puis c'est ça. Mm-hmm.
Qu'est-ce qui fait que tu as choisi la branche que tu as choisie? D'abord, en quoi tu as étudié?
J'ai étudié, dans le fond, je suis français, ça s'entend peut-être à mon accent.
C'est vrai?
Fait que j'ai étudié en France dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'École des mines de Nancy, qui est d'une durée de 3 ans, qui correspond à peu près au niveau à baccalauréat, mettons à Polytechnique, si on veut, en ingénierie. Et puis pour ma 3e année, donc justement, j'ai décidé de faire un échange avec l'École Polytechnique de Montréal, un échange double diplôme. Donc ma 3e année d'école d'ingénieur en France, je l'ai passé à Polytechnique pour faire une maîtrise en génie minéral, où j'ai travaillé sur un projet de recherche d'évaluation de la bioaccessibilité du mercure dans les sols. Ça semble très pointu comme ça. C'était évaluer si des enfants, par exemple, ingèrent un peu de sol contaminé avec du mercure. Est-ce que le mercure est susceptible de passer dans leur organisme, si on veut?
C'est quoi la réponse?
La réponse, c'est oui, un petit peu.
OK.
Donc, tout ça pour dire que je suis venu ensuite ici à Montréal, puis avec ma conjointe, on s'est installé ici, etc.
OK. Fait que le génie des mines... J'imagine très peu de jeunes de comme 14-15 ans qui se disent ouais, « moi, je vais faire du génie des mines ». Qu'est-ce qui t'a amené cette idée-là? Y a-t-il des expériences, des rencontres? Qu'est-ce qui t'a amené là?
Ça a été surtout, dans le fond, ça a été principalement au fur et à mesure de mon parcours scolaire à l'École des mines de Nancy. Bien que ça porte l'École des mines, le nom de mine, il n'y a plus grand lien avec l'industrie minière en France, etc. Mais le nom est resté. J'avais choisi une option géologie. Donc géologie, études des sols, études des roches, etc. Et dans ces cours-là, il y avait des cours axés sur l'environnement, et puis sur les contaminants dans les sols, etc. Donc ça m'a amené à ma maîtrise ensuite à Polytechnique, où j'ai fait sur la bioaccessibilité du mercure dans les sols. Donc là encore, c'était en lien avec les contaminants dans les sols et tout ça. Puis c'est ça qui m'a amené petit à petit à ce métier-là de consultant d'environnement.
OK. C'est sûr que quand je pense à la clientèle que moi je vois dans mon bureau, j'ai souvent plusieurs personnes qui vont me dire « ben, je sais que j'aime ça jouer dehors. Je sais que j'aimerais pouvoir faire quelque chose pour contribuer au bien-être de l'environnement. Ça va pas bien maintenant. » Quand on pense à ton domaine, même si c'est pas comme on attrape les GES dans le ciel, il y a quand même une portée environnementale. Quel impact tu dirais que vous pouvez avoir dans ton domaine à toi sur l'environnement?
On peut avoir un impact quand même significatif, je pense. Parce que même si, oui, on travaille avec les industriels, etc., qui émettent des contaminants, qui sont responsables d'une certaine contamination, si on veut, on les aide quand même à mieux gérer ces problématiques-là et à faire en sorte, de un, qu'elles suivent les lois et règlements qui sont en place, ou de faire en sorte que ça s'améliore pour l'environnement de manière générale. Donc je pense que oui, on peut avoir un impact quand même important à notre niveau pour les activités qu'on propose.
Mm-hmm. Fait qu'en se disant qu'on va pas du jour au lendemain arrêter toute production de tout, bon ben tant qu'à ça, cette production-là, si on peut les aider à l'encadrer pour que ce soit le mieux possible, mm-hmm. C'est un peu ça l'impact.
Exact.
Mm-hmm. Qu'est-ce que tu dirais que ça prend pour être bon dans ton métier à toi?
Ça prend plusieurs qualités qui vont principalement être de l'objectivité, je dirais, de savoir vulgariser, comme on parlait tout à l'heure, savoir vulgariser un petit peu les données qu'on recueille sur un terrain, par exemple, savoir vulgariser les lois et règlements pour un client. Ça prend des gens dégourdis qui sont capables de se retourner sur un dessin, comme on dit, pour pouvoir réorganiser leur journée, pour pouvoir trouver des solutions aussi, des solutions novatrices pour les clients. Des fois, on peut arriver et puis oui, il y a une solution, c'est ça. Mais il existe aussi d'autres solutions qu'on peut essayer de développer avec les clients selon leurs propres besoins.
Mm-hmm. Fait que cette initiative-là aussi de se dire, c'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'il n'y a pas autre chose.
Exact.
OK. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus nourrissant, validant dans ce que tu fais comme travail?
Je dirais que c'est terminer un mandat et puis voir qu'on a réussi à aider un client à résoudre son problème environnemental, puis à faire en sorte que la situation en bout de ligne est meilleure qu'avant.
Mm-hmm. Puis qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est quoi le plus grand défi dans ton travail?
Le plus grand défi, ça va être de tout gérer en même temps. Mm-hmm. Parce qu'on a énormément de choses à penser en même temps et de réussir à tout organiser pour que tout s'imbrique bien. Je pense que c'est quelque chose qui est parmi les plus difficiles.
Fait que si j'avais une loupe là, dans le cerveau à Bruno, là, c'est quoi les choses que je verrais, avec quoi tu jongles?
Ça va être avec les échéanciers, avec l'organisation de l'équipe de travail, avec les différentes demandes des clients qui rentrent, etc.
OK, fait que c'est tout doit rentrer pour être livré au bon moment.
Exact.
Puis s'assurer que tout le monde aille bien dans tout ça. Mmh.
En plus de ça, on joue aussi avec les lois et règlements en matière d'environnement qui évoluent très vite en ce moment. Donc, il faut savoir se mettre à jour, se former, etc. sur les différents domaines,
mm-hmm,
pour pouvoir toujours proposer des solutions qui soient valides.
Quelque chose qui était correct il y a 5 ans, il est peut-être plus maintenant.
Exact.
OK, OK. Si quelqu'un t'écoute maintenant, puis est, je sais pas, au secondaire, au cégep, début d'université, puis se dit, j'aimerais aller vers ce domaine-là, ça a l'air intéressant. D'ici à ce que cette personne-là gradue, mettons qu'on recule, la personne est au début de son secondaire. D'ici à ce qu'elle gradue puis qu'elle soit rendue vraiment dans tes bottines à toi ou pas loin, la vie va avoir avancé, la technologie va avoir avancé, le marché va avoir bougé. Qu'est-ce que tu penses qu'il va y avoir comme évolution dans ton domaine dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années?
C'est une bonne question. Je pense que le plus gros défi, comme je le mentionnais avant, ça va être l'évolution des lois en matière d'environnement. Tout ça, ça bouge beaucoup, ça bouge vite. Donc, dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce qu'on va être rendu? C'est une bonne question.
Puis tu penses qu'elles évoluent dans quelle direction?
Je dirais qu'elles évoluent pour le mieux, pour l'environnement, du moins j'espère.
On espère tous.
Pour que les projets qu'on mène aboutissent à des solutions finalement qui sont meilleures pour l'environnement et puis pour tout le monde. Donc, c'est ça.
Ouais, parce que c'est comme si... C'est ça, hein? C'est un peu ce que tu me disais tout à l'heure. Tu transiges entre l'environnement puis l'industriel.
Mm-hmm.
Fait que les règles sont comme de plus en plus construites pour favoriser l'environnement versus favoriser l'industriel. Je vulgarise top, là,
ouais,
mais
ouais.
On est un peu là, tu dis.
Oui. Je dirais que c'est ça. Effectivement, on essaye de mieux protéger l'environnement au fur et à mesure. Si on recule en arrière de plusieurs décennies, la loi sur la qualité de l'environnement n'existait pas, etc. Donc, petit à petit, ça s'améliore. Parfois, c'est sûr que, comme dans tous les domaines, il y a des choses qui bouge, pas forcément dans le mieux, mais je dirais que dans l'ensemble, ça bouge pour le mieux au niveau de l'environnement.
Mmh.
Et puis c'est ça le défi auquel on va être confronté, c'est vraiment de pouvoir s'adapter avec ces règles-là, pour les rencontrer évidemment, et puis pour que ça puisse répondre aussi aux besoins des clients, sans mettre tout le monde à la porte dans une usine par exemple.
Mmh. Mmh. Puis au niveau technologique, comment est-ce que tu penses que ton travail va changer?
Au niveau technologique, je ne sais pas s'il va tant changer que ça. Ça reste quand même... Nous, notre travail consiste principalement à aller voir un client, lui donner des conseils, puis rédiger des rapports. On n'a pas tant d'aspects technologiques comme tels.
Mm-hmm. Fait que les outils que vous utilisez pour évaluer, ils risquent de se maintenir ou peut-être devenir un peu plus performants.
Oui, c'est ça, exactement. Il va y avoir peut-être des analyses qui vont changer ou des choses comme ça, mais mm-hmm, grosso modo, c'est assez...
Fait que peut-être ça se ferait plus vite, peut-être ça se ferait un peu plus facilement, mais mm-hmm, je cumule des données, je les transmets à la personne, je lui propose des solutions.
Exact.
Excellent. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait se rapprocher de ton domaine?
Je lui donnerais comme conseil d'être curieux, de s'orienter vers des disciplines, je pense, un peu plus sur du côté de la science, de la biologie, de la géographie, de la géologie, etc. Et puis d'être curieux, puis de vouloir... d'avoir un envie de protéger l'environnement et puis c'est ça.
Mm-hmm. C'est comme une mission aussi en arrière, mm-hmm, des tâches. Là.
Ouais.
Ouais. Alors, pour clore notre courte entrevue, j'aurais quelques questions en rafale pour toi. Mm-hmm. Fait qu'en un ou deux mots, le travail, c'est?
Stimulant.
L'école, c'est?
Très important.
La carrière, c'est?
La carrière, c'est un peu secondaire.
La conciliation travail-vie, c'est?
Ça, c'est vie-famille? Mmh. Oui, c'est très important. Mmh.
Mmh. Et qu'est-ce qui te motive à sortir du lit chaque matin?
Mes deux garçons.
Ah, ça, c'est une motivation inévitable.
Ouais.
Être un adulte, c'est?
Des défis.
Quel conseil est-ce que tu donnerais au Bruno qui avait 20 ans?
Lâche pas.
Lâche pas, ça sent bien. Merci Bruno, ça a été super intéressant.
Merci à toi, Amy.
Merci à notre invité et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Portraits professionnels. Pour plus de détails sur cette profession, visitez notre site internet au www.saltoconseil.com.